en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Claude Parent, bienvenue à Canal Académie. Merci d'être venu et d'avoir accepté cette interview. J'accueille donc aujourd'hui l'architecte Claude Parent, membre de l'Institut, membre de l'Académie des Beaux-Arts, où il a été élu en 2005 dans la section architecture au fauteuil de Jean Balladur. Un an plus tard, vous avez été reçu sous la coupole par votre confrère architecte Jean Taillibert. En 2006. Donc, parmi vos œuvres, vos bâtiments sont des sculptures. Quand on s'intéresse à votre parcours, on constate que votre nom reste attaché à la réalisation de l'église Sainte-Bernadette du Banlay à Nevers en 1966, probablement connue du grand public et dorénavant classée monument historique. On pourrait aussi citer la maison de l'Iran à la cité universitaire de Paris, des centrales nucléaires, des maisons particulières et plus récemment l'hôtel de ville de Lillebonne construit dans les années 90. Vous avez écrit, bataillé, vous n'avez semble-t-il pas manqué d'énergie pour faire partager vos réflexions dans les revues d'architecture comme la fameuse « L'architecture d'aujourd'hui » et vous en avez aussi animé comme « L'architecture principe », la revue « Aujourd'hui ». Claude Parent, citons aussi quelques titres de vos livres révélateurs de votre démarche, de vos créations, de votre esprit plutôt mordant. Apparemment, quel que soit le nombre des années parmi vos livres, il y a donc « Vivre à l'oblique », 5 réflexions sur l'architecture, l'architecture et le nucléaire, les entrelacs de l'oblique, l'architecte bouffon social, colère, les maisons de l'atome, errer dans l'illusion, quand les bouffons relèvent la tête, cuit et archi-cuit, avec un jeu de mots bien entendu, le cœur de l'oblique, et puis portrait impressionniste et véridique d'architecte. Et en plus de tous ces talents, vous êtes un dessinateur qui aime croquer ses amis. Bref, ça ne doit pas être pour rien que vos confrères vous ont invité à les rejoindre sous la coupole. Alors Claude Parent, en 2005, vous avez publié aux éditions Jean-Michel Place un petit livre tout en surprise, qui s'intitule « Claude Parent ». Alors, c'est une sorte d'autoportrait. Si on tourne quelques pages, justement, je voudrais qu'on le fasse. On voit un petit bonhomme qui monte le long sur une pente, une oblique, avec une flèche. Et il y a écrit « Je me lance ». Ensuite, « Non, je retourne ». Je vais chercher un copain. On reconnaît votre goût de l'amitié, là, de l'alliance, des alliances. Et puis, vous montez tous les deux cette colline, cette pente, cette oblique.
Cette oblique.
Jusqu'où ? Jusqu'où, justement ? Alors là, c'est amusant. On pourrait le regarder comme un dessin animé, tourner les pages à toute allure. Le petit bonhomme disparaît. Il ne reste plus qu'un bout de jambe et un grand point d'interrogation. Il a quitté la page pour aller où ? On ne sait pas. On sent qu'il tombe. Vous écrivez « ouf », un seul mot, et puis « boum ». Et puis ça recommence, c'est reparti effectivement, le petit bonhomme redescend. Et l'autre le rejoint, son ami, et dit « attends-moi ». Et là l'oblique se transforme en vague, commence à être un peu courbe, mouvement que vous…
Plus complexe.
Voilà, et puis ça continue dans toutes les
positions,
dispositions, attitudes, tous les questionnements qui se posent à vous face aux obliques, à leur intersection, à leur rencontre. Évidemment, par moments, ça ne marche pas, il y a des divorces, mais on y revient, on se sépare, salut, salut, jusqu'au bout de l'infini. Et puis, voilà, c'est tout un jeu sur l'oblique, mais pas seulement, parce que après, vous avez quelques petits états d'âme, on va dire. Là, c'est heureux, ça n'est plus une oblique. Et le petit bonhomme descend dans une courbe complète, une grande virgule, ressemblerait à un bout de moustache presque, que vous avez si bien porté. Là, il est inquiet, le petit bonhomme, et là, il est tout en haut, perché à l'envers, parce que c'est important d'inverser les choses, sans dessus-dessous. Voilà, c'est pour donner un exemple. Il y en a pour tous les goûts, comme vous dites, sur cette page. Alors, il y a sympa, il y a séparé, bref, il y a plein de choses, reposées, ondulées, et tout ça avec des jeux de courbes et d'oblique, voilà. Alors, on leur a reconnu beaucoup d'humour, des tourbillons, des choses insurmontables, une spirale. Pourquoi avez-vous fait ce petit livre en guise, qui est une sorte d'autoportrait, Claude Parent, qui est un petit peu... À qui était-il destiné ?
Ça m'amuse, comme vous avez montré le livre. C'est drôle pour moi parce que je n'avais pas attaché cette importance-là. C'est le graphiste qui a eu l'idée de mettre Claude Parent en titre.
Ah, ben pour moi, j'ai cru que c'était...
Et ça m'a frappé.
Oui.
Dès qu'il m'a apporté ça, c'était pas du tout prévu de mettre mon nom. Mmh. Mon nom, il devait être en signature. Etc. Et le graphiste s'est pris au jeu et un jour, il m'a dit, voilà la couverture.
Ah ben, vous voyez, moi, j'ai pensé que c'était...
Et tout le monde a marché.
Ah ben, voyez, moi, une de plus.
Et moi aussi. Moi aussi. Et tout le monde a dit, mais ce livre n'aurait pas eu ce poids si le graphiste n'avait pas inventé. À tel point que le graphiste m'a dit, je l'ai félicité de l'expression que ça prenait, de la densité qu'on prenait, le nom par rapport au croquis ou le croquis par rapport au nom, et sans orgueil, hein, c'est vraiment comme un message. Et il m'a dit, oui, mais il ne faut pas surtout dédicacer sur cette page.
Oui.
Ce qui fait que
vous l'avez sur
toutes
la
les
couverture.
Dédicaces se font en quatrième de couverture.
Oui.
Et ça a été une discipline. Et vraiment, ce graphiste, je ne connais même pas son nom, parce que c'était un jeune type qui connaissait l'éditeur. Et ça a changé tous les rapports. Comme quoi, vous voyez, il y a des hasards artistiques qui, tout d'un coup, changent tout, font tout basculer.
Oui.
Parce que moi, mon problème, c'était bien sûr de faire rire, d'être un peu... d'amener l'oblique à un langage moins savant que ce que j'en avais fait dans les livres théoriques avant. Tout d'un coup, ça m'avait pris. C'était au moment de je ne sais plus quelle fête.
Ça, c'est en 2005.
D'ailleurs, j'ai dédié ce livre à une de mes filles et à son fils. Voilà. À Chloé, Laszlo et Gus, qui vivent depuis 10 ans, ou 13 ans, aux États-Unis, à Los Angeles. Mais, en fait, le but, c'était de rendre ça donc plus drôle, plus accessible, montrer que ce n'était pas, comme je vous l'ai dit, un langage extrêmement complexe de l'architecte qui expose ses théories, mais quelque chose qui montrait que c'était un art architectural tout en mouvement, et notamment basé sur le parcours. Au fond, ça, c'est un abécédaire du parcours.
Mmh.
C'est pour dire, l'architecture, attention, ce n'est pas quelque chose où vous êtes immobile, où vous êtes enfermé dans votre pièce. On a toujours dit, on va vous faire un truc de 3 pièces, un truc de 4 pièces. Non, l'oblique, elle est venue là pour libérer, pour vous libérer de l'enfermement, pour vous libérer du fait que vous ne travaillez que l'intérieur, etc., de vos structures, alors que le monde vous appartient et qu'il n'y a aucune raison que vous ne le parcouriez pas et que l'architecture ne vous aide pas à parcourir ce monde. Mais c'est un message où tout d'un coup, on vous met quand même face aux vos responsabilités en vous disant, attention, ce n'est pas la maisonnette avec un champ, c'est l'univers qui vous appartient, et je ne vois pas pourquoi, hommes, femmes et familles, vous vous mettez dans un enclos fermé sur le reste, ou alors que vous pouvez, que c'est, le monde est à vous et que vous pouvez le parcourir. Donc, la conclusion, c'était d'en revenir après, mais je ne l'ai pas fait, au lecteur de s'en débrouiller, puisqu'il y a le point d'interrogation sur la direction à prendre, sur la couverture, au directeur de s'en débrouiller, à l'homme de s'en débrouiller, pour savoir comment il veut habiter, et notamment comment il veut se désenclaver de cette habitude que les architectures perpendiculaires, horizontales et orthogonales portent en elles comme le péché originel.
Alors revenons un petit peu à vos débuts. Quand vous étiez jeune architecte, étiez-vous déjà à la recherche d'un langage architectural particulier. Votre formation d'architecte vous satisfaisait-elle ?
Ma formation d'architecte, elle n'a pas été brillante. Je n'étais pas bon élève.
Et comment vous avez réagi, vous ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Moi, j'étais un très bon élève au lycée. Oui. Bon, après, que les très bons élèves au lycée, ils faisaient latin-grec à cette époque-là, et puis après, ils choisissaient. Et moi, on m'a mis dans la filière de polytechnique parce que j'étais bon élève et que je voulais devenir ingénieur parce que mon père était ingénieur des arts et métiers. Donc, ça, il y avait une filiation là que je pouvais comprendre et aimer. Et j'ai fait des études pendant 2-3 ans, mais je ne comprenais rien aux mathématiques, alors rien. J'apprenais tout par cœur. Et malgré ça, un travail harassant. Je travaillais le samedi, le dimanche. J'avais 17 ans. Mais mes deux bacs, moi, je les ai passés, même les trois bacs, parce que j'ai passé philosophie. En même temps, j'avais 17 ans en sortant de là. Donc, mes années de taupe, comme ils disent, d'hypotaupe, comme notre ami Andreu. Mm-hmm. C'est 18 ans, 19 ans. Puis après, il y a eu la guerre, tout ça, des complications. Mais on a bien vu que ce n'était pas mon domaine. Mm-hmm. Ce n'était pas là que j'allais pouvoir être, ni moi-même, parce qu'on n'en sait pas. On n'en sait rien quand on a 18 ans, on ne sait pas qui on est, ou qui on va devenir. Mais on a bien vu que ça ne collait pas. Et un proviseur intelligent l'a dit à mes parents, comme je l'ai souvent raconté. Il a fait pleurer toute la famille, mais il a eu raison. Et mon frère Michel, qui était dans les sites à ce moment-là, il s'occupait des sites et paysages. C'était tout à fait au début de ses réflexions de l'État sur sites et paysages. Tout à fait au début. Il a dit que je devrais faire l'architecture, parce que j'étais réputé aimer le dessin, m'en sortir assez facilement. Et c'est lui qui a fait cette proposition. Après, je me suis aperçu de ce que c'était. Alors, comme je n'ai pas eu longtemps, j'ai attendu un an de quoi passer le premier concours, dites l'admission, etc. Ça a été très facile pour moi parce que j'avais une formation, donc quand même
solide.
Et alors que les architectes, à ce moment, on ne leur demandait rien. Mmh. On leur demandait le certificat d'études. C'était comme dans les corporations. Le corporatisme était dans les études de l'architecture. Et alors là, bon, évidemment, il y a eu le service militaire, le service du travail obligatoire, les machins, et qui font fait que j'ai pris 3 ans à ne rien faire comme étude. Et quand je me suis retrouvé élève, j'avais 4 ans de plus que mes condisciples. Et c'est 4 années importantes. C'est-à-dire que vous n'avalez plus n'importe quoi ou des choses qu'on vous dit n'importe comment. Vous avez déjà en 4 ans, c'est le laps de temps où vous formez votre premier esprit critique. Alors là, les combats avec l'enseignement de l'architecture ont commencé donc très tôt, à 21 ans, 25 ans. Ils ne se sont jamais terminés. Encore maintenant, l'autre jour, on m'a raconté une histoire. Comment on enseignait l'architecture à des jeunes gens dans une école que je ne citerai pas, mais j'étais outré, j'étais redevenu élève contestataire et je ne pouvais pas admettre qu'en 2008, on vous raconte encore des boniments pareils sur l'architecture. Là, il y a quelque chose dans l'enseignement de l'architecture qui est encore à trouver, qui est encore mal perçu par beaucoup. Je le sais parce que je reçois des étudiants qui arrivent non seulement de France et de Navarre, mais des pays étrangers. Et presque tous, à part un peu Hollande ou dans certaines choses précises d'Angleterre ou du monde américain, presque tous se plaignent de leur enseignement.
Partout, c'est général.
Pour moi, en tout cas, je dois les attirer. Je ne dis pas que c'est la majorité. Oui. Je dis que moi, je ne vois que ça. Oui. Que des gens qui disent on ne me donne pas la parole que j'attendais. Et je leur dis, vous avez raison.
Continuez.
Continuez. Et si on ne vous le donne pas, trouvez-le vous-même.
Alors, c'est ce que vous avez fait, vous.
Ben,
fait,
hein. La méthode, elle a été vite.
Elle est radicale, elle est peut-être aussi très, très efficace, puisqu'elle permet de se...
Elle est dangereuse.
Ah, sûrement, oui.
C'est
une grande prise de risque.
Parce que quand vous avez 21 ans, vous n'êtes pas encore très formé.
Oui, mais on a un peu plus d'inconscience aussi.
Et alors,
c'est quand même le charme.
C'est ça qui aide. Parce que c'est là ou jamais. Hein. Après, la conscience, elle est perdue.
Canal Académie.
Alors, dans les années 50, vous décidez de fréquenter le groupe Espace, de rejoindre des amis peintres et sculpteurs. Quelle était votre démarche? Et puis, qui étaient-ils, tous ces gens que vous avez approchés et avec qui vous avez collaboré? Qu'est-ce qui est sorti de ces rencontres, de ces échanges?
Pour moi, c'est ma formation globale qui est sortie de là. En réalité, je n'étais pas au début dans ce qu'on appelle la culture de l'adolescent. J'étais beaucoup plus intéressé par les pièces de théâtre que j'allais voir ou que je lisais. J'ai lu beaucoup de théâtre et j'étais plus intéressé par l'écriture.
Vous avez failli écrire, enfin consacrer votre vie à l'écriture ou pas? Parce que quand même, on s'interroge. Hein, entre...
J'attends toujours de me décider.
Ah, bon.
Un jour, c'est un vieux débat parce que quand j'ai écrit mon premier livre chez Robert Laffont, bon, avec un éditeur comme Robert Laffont, ça tire pas mal hein, ça, à ce moment-là. Robert Laffont est en pleine forme et ça. Et il y a un confrère plus âgé que moi qui était en Bretagne, qui était connu pour ses positions radicales et que je rencontre à l'occasion du livre. Il l'avait lu. Je lui demandais ce qu'il en pensait. Il me dit : quand est-ce que tu écriras un vrai livre sur l'architecture ? Et ça m'a hanté et j'y pense. Presque tous les mois, je me dis, mais j'ai écrit beaucoup de livres, mais c'est des livres à propos de l'architecture. Mais je ne me suis pas lancé dans l'aventure qui est littéraire, qui consiste à dire ce que c'est que l'architecture. Je me suis lancé sur la mission de l'architecture, ses devoirs, sa responsabilité, mais sa nature profonde. Ce truc qui me hante toujours à la limite du métaphysique et de la terre et du concret, je n'ai pas encore fait ce livre. Est-ce que je le ferai un jour? Peut-être pas, on ne sait pas.
Il y a un livre où vous abordez ça
J'ai fait des petits pamphlets comme ça, en disant l'architecture, cela, l'architecture.
Ça vous permet d'aborder de façon quand même très profonde l'architecture et d'en donner des définitions, justement. Les retrouver tout à l'heure.
Par des définitions ou par des petits pamphlets comme ça, j'arrive bien à débusquer l'architecture. Mais s'il est vrai peut écrire un grand livre...
Ouais.
Il n'est pas fait.
C'est pas encore.
Non.
Justement, c'était l'occasion pour vous de donner quelques définitions de l'architecture sur la modernité, sur l'architecture. Dans cet ouvrage-là, justement, il y a de belles définitions.
C'est dans le livre Colère, parce que le second titre de Colère, parce que sur la première page, il y a juste Colère. Mais sur ce qu'on appelle le faux titre, je crois, il y a Colère. Et il y a où la nécessité de détruire.
Ouais.
Donc ça, c'était déjà une prise de position au moment du patrimoine. Au moment où on a prononcé la première fois devant moi patrimoine, c'est sûr que je me suis pris d'une volonté, d'une sur la nécessité de la destruction et que je persiste à dire que si une société n'est pas capable de détruire à bon escient, à elle de trouver le bon escient, à bon escient ce qu'elle a construit et qui commence à gêner son développement ou son désir d'aller vers un futur, alors elle ne trouvera jamais son futur. Il faut brûler les vaisseaux.
Il faut du vide, dites-vous.
Il faut du vide. Et quand il n'y en a pas, il faut le faire.
C'est la
faut
respiration
tailler dans le vif.
De...
La société a marché comme ça. Pourquoi l'architecture serait-elle indépendante de ce mouvement ?
Alors, revenons aux années 50 et au groupe Espace. Qui avez-vous rencontré à cette occasion ?
Dans le groupe Espace, c'est vrai que ça a été pour moi formateur, ma véritable formation, et j'ai rencontré tous les artistes de ce qu'on appelait l'abstraction géométrique, qui n'avait pas encore beaucoup d'adeptes dans le pays, et qui avait une définition, des petits livres, des artistes qui étaient très en cohérence, qui se réunissaient, qui débattaient, etc., qui m'a touché. Et c'est grâce à André Bloch que j'ai rencontré ce groupe qui était en formation.
Oui.
Donc André Bloch, directeur et inventeur de la revue L'Architecture d'aujourd'hui, avait trouvé que mon associé Yonette Schein et moi, on écrivait quelquefois dans des tribunes des choses qui l'intéressaient.
Oui.
Il nous a fait finir et très vite, il nous a dit « Je crée ce groupe Espace avec... » un néoplasticien assez ancien, assez âgé, qui s'appelait Delmarl, et il dit, je crée ce groupe d'artistes. Autour, il y aura tous les architectes, tous les peintres et les artistes, les sculpteurs modernes actuels, qui ne sont pas reconnus encore.
À ce moment-là,
et
pas
loin,
du tout.
Pas du tout reconnus, loin de là. Et vous verrez, l'intérêt de ce groupe, c'est que il va travailler en symbiose avec les architectes.
Ça, c'est donc, extraordinaire.
Ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelait après, d'un mot général, qu'on appelait synthèse des arts. Et ça venait en droite ligne quand même des expériences du néoplasticisme que les architectes avaient fait avec les artistes en Hollande, puis en France, quand ils étaient venus avec...
Est-ce que l'équivalent existe aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est une démarche qui était, disons, qui est personnelle, ou est-ce qu'on a d'autres exemples, d'autres expériences qui ont été renouvelées dans ce sens après ?
Non, à mon avis, non. Il y a eu des petits groupes qui se sont formés, mais avec une focalisation sur l'action qui fait que ce n'était pas un mouvement général et
d'échange.
Voilà. Alors. Par exemple, pour prouver ça, c'est que les artistes ne voulaient plus s'appeler peintres ou sculpteurs, ils voulaient s'appeler plasticiens.
Oui.
Bon, tout ça, ça vient bien
ça vient de là.
Du néoplasticisme, même le langage. Il y avait eu avant des... Moi, j'avais connu Fernand Léger qui m'avait dit qu'il avait travaillé avec Le Corbusier sur le mur, où il fallait retrouver la fresque toute plate sur les murs, etc. Donc il y avait eu des... Ça s'appelait... Ça tournait autour du mur, l'art mural ou quelque chose comme ça. Bon, donc il y avait eu des tentatives. C'était dans le mouvement moderne des années 30, mais ça s'était interrompu avec toutes nos histoires de guerre. Et maintenant, on était dans les années 50 et ça renaissait tout naturellement, encouragé par l'architecture d'aujourd'hui. Et ça a eu pour moi un retentissement énorme, surtout que j'ai eu la chance, étant dans ce groupe, de rencontrer tous les grands artistes.
Oui,
c'était des artistes engagés.
Ouais. C'est à cette occasion que vous avez rencontré Yves Klein,
un petit peu plus tard. Parce que Klein était déjà arrivé au moment où, justement, c'était déjà établi l'art abstrait, et lui, il a apporté le fer sans ménagement dans tout ce qui était l'art.
Ah oui, oui,
c'est constitué. Oui. Et l'art abstrait partait avec
tout.
Et même la peinture de sa mère, tout ça, ça disparaissait. J'étais à la fameuse conférence de la Sorbonne,
oui.
où là, il a fait un tabac pour et contre lui, assez peu habituel dans cet amphithéâtre. Et c'était vraiment... Alors là, on commençait à balayer, à faire le vide. Et c'est tout naturellement, parce que là, c'était un petit peu... Oui, c'était dans les années 50, ça.
Parce que vous avez avec lui...
J'ai beaucoup travaillé
avec lui. Vous avez beaucoup travaillé avec lui.
Les dernières années.
Oui, simplement, vous aviez, je crois, des projets communs sur l'architecture de l'air. Alors, on connaît aussi chez Klein ces peintures au feu. Et vous aviez, je crois, des projets de fontaines assez extraordinaires au Trocadéro. Vous pourriez évoquer ce projet.
Klein a commencé à vouloir se manifester d'une façon concrète et pas seulement dans des idées ou dans des revendications. Et il se souvenait très bien des fontaines de Varsovie. Et j'étais avec le compagnon de la femme de Klein, de Rotrot. Hier, on déjeunait ensemble et il m'expliquait comment l'idée était venue parce qu'on parlait de restaurer ces fontaines.
Oui.
Et alors, Klein,
c'est autre chose que de les restaurer.
Voilà, quand il y a un vide, quel qu'il soit, qui se prépare, et ça, c'est une restauration, une réhabilitation, c'est quand même pas une remise en question, mais quand même. On recommence à zéro, on le verra pour la maison de l'Iran, là, où le même problème s'est posé 40 ans après. Et donc, ça crée dans l'esprit un vide. Et ce vide, il faut l'utiliser. Il ne faut pas le remplir, il faut l'utiliser. Il faut sortir l'énergie du vide. Donc là, ça a été les fontaines de feu et d'eau et de feu, les rencontres de l'eau et de feu, ce qui était... de nature assez métaphysique, comme l'était Klein quand même, dans ses discours et dans une partie de sa vie quand même. Et pour moi, ça a été peut-être... j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels. Ça, j'ai eu cette chance énorme. Mais lui est peut-être celui qui, en fulgurance, m'a le plus marqué.
C'est un mot qui lui plairait bien, ça.
Quand je fais des réflexions un petit peu sur la société, comment elle s'embourbe, quels sont les moyens de la réveiller, de l'empêcher de dormir dans des formes ou dans des habitudes ou dans des pratiques sociales qui n'ont plus lieu d'être et qui ne sont capables que d'être comme ça, répétitives, sans qu'elles aient de sens, comment on peut mettre quelque chose, au contraire, qui redonne du sens à la société, etc.
Et avec un artiste comme Klein, vous aviez... comment est-ce que vous travailliez? Comment est-ce qu'on travaillait dans ce groupe espace? C'est-à-dire qu'on écrivait, on débattait, mais comment ça se passait concrètement?
Quand on préparait des projets, comme celui... Bon, on travaillait tous les deux. Il développait sa pensée, développait ses idées. Et pour moi, au début, il s'agissait surtout, comme je l'ai fait pour beaucoup d'artistes, avec un grand plaisir, parce que je considérais que c'était des exercices de formation à un niveau, un grand niveau, comme je l'ai fait avec Tinguely, par exemple, pour La Nuit à tout. Bon, il s'agissait de se mettre dans la peau du bonhomme, de voir comment on pouvait illustrer ces idées-là pour les communiquer à un plus grand nombre. En fait, c'était ça. Un artiste venait, beaucoup d'artistes venaient, il me dit, j'ai cette idée d'origine, comment on peut faire pour que l'architecture soit porteuse de cette idée et démontre que cette idée est véridique et puisse être communiquée à des gens qui n'ont aucune idée de ce genre d'idées ou de ce genre de projets. Si on développe que l'idée, les artistes de cette époque pensaient que ça ne pouvait pas marcher, que l'idée seule n'était pas porteuse. Donc il leur fallait leur langage, qu'on peut appeler une illustration dans ce cas-là, par exemple. Donc il fallait un gars qui soit capable de faire ce pont entre l'idée et puis le dessin communicable, communicant. Et moi, je me suis fait la réputation d'être ça. D'abord, d'aimer les idées des autres, autant que les miennes. J'ai eu quand même le bon goût de ne pas discuter d'aimer les idées des autres et, à ce moment-là, de mettre toute ma compétence et toute mon expérience, puisque je commençais à en avoir, au profit de cette idée pour qu'elle soit comprise, communicable. Mais après, évidemment, on participait davantage au mouvement de cette idée, à son développement. Donc, ça devenait très intéressant pour moi. C'était plus simplement illustrer, c'était réfléchir sur, avec l'inventeur, avec machin. Et ça, c'était quand même quelque chose qu'on rencontre pas souvent.
Donc, ça se passait oralement, il n'y a pas de trace écrite de tout ça.
Il y a des croquis, mais des idées. Les croquis de Klein, ils sont immontrables. Donc, nous n'avons pour, quand il fait des expositions sur l'architecture, il n'a, autant il a des photos pour le feu, la rencontre du feu sur l'étoile, on a des photos,
on a des trucs,
autant pour l'architecture, puisqu'il n'y a pas eu de réalisation fondamentale, il n'y a que les dessins que je lui ai donnés. D'ailleurs, je n'en ai pas gardé un. Il y a les dessins qui ont été exposés à Beaubourg, qui vont être exposés partout, etc. À un moment, on m'a demandé, quand ça devenait comme important, de les authentifier.
Oui.
Donc, on m'a donné tout le stock de dessins qu'il avait et j'ai bien repéré ceux qui avaient été faits chez moi ou par des gens de mon agence, ou qui avait été fait directement avec Klein, comme l'eau et le feu, par exemple. Les fontaines de Varsovie, il est arrivé, il me dit, je veux un petit croquis. Il est arrivé à 11h30 ou midi, et puis il est resté à 4h, 3h du matin, on était encore là. Il était juste parti pour aller chercher un peu à manger pour minuit. Et puis, le dessin s'est fait avec lui, parce qu'il fallait que je comprenne. Et là, ça devenait coton, comment il le voyait dans sa tête. Et je raconte toujours que ce n'est que quand j'ai fait les fumerolles, les grands panaches de fumée sur Paris, qui passaient par-dessus le Trocadéro. Dans le dessin, c'était plus important que la rencontre de l'eau et du feu qu'on avait expérimenté par des dessins qui lui convenaient au fur et à mesure. Et j'ai compris toute cette part de qui avait en Klein de merveille, de la merveille, du merveilleux de l'illusionniste, et aussi de tout un monde romantique qui ne développait pas.
Que vous avez vous approché,
et qu'on voyait que moi j'étais, je devais détecter. Ce sont des exercices presque de psychanalyse sans être psy, entre deux artistes où tout d'un coup ça s'entrechoque et il en sort.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Vous avez parliez de Klein illusionniste, vous avez une jolie formule dans vos écrits. Vous dites « errer dans l'illusion ».
Ah oui. Et
ça, c'est un chapitre ou un titre.
C'est le thème, c'est le titre
thème
de
d'un de vos livres.
Ouais. Eh bien, c'est une phrase d'un écrivain japonais, dont j'ai perdu le nom. Ouais. Je suis complètement fanatique de l'architecture japonaise, traduite en français. Dieu merci, ce n'est plus comme au début de mon intérêt pour le Japon, où les livres étaient traduits par les Américains et nous, on traduisait de l'américain au Japon.
Au français.
Alors ça, je l'ai pourtant connu, ça. Et alors, on perdait chaque fois 20% du truc, ce qui n'était quand même pas... Et Et puis j'ai lu L'éloge de l'ombre, oui, de Tanizaki. Et à ce moment-là, cette littérature japonaise, je continue. Maintenant, c'est Ogawa, la jeune, plus jeune, là, Ogawa, qui a mon machin. Je les mélange un peu, j'en ai tellement lu. Je hiérarchise pas, je fais pas. Je ne suis pas cultivé de la culture japonaise. Enfin, j'ai lu peut-être 200 livres quand même, japonais. Et toujours, je me retrouve dans un univers qui me convient, qui n'a rien à voir avec le mien.
Non, il y a une gestion
rien
de
à voir avec le...
façon de gérer l'espace quand on est au Japon, qui est complètement différente de la nôtre. Donc, dans la littérature, qu'est-ce que vous y trouvez, justement? Vous dites que vous êtes un peu comme chez vous dans cette littérature japonaise.
Moi, quand j'étais jeune, c'était Artaud, bien sûr. Mmh. C'était les trucs de violence, comme ça. Ouais. Ou c'était Pirandello, ou des trucs comme ça, quand j'étais jeune. Mais à un moment, j'ai lu Le rivage des Syrtes.
Ouais.
Et là, c'est un livre qui m'a bouleversé. Je l'ai dit à un type plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, qui était de l'âge de mon frère aîné, qui était Maurice Jardot, qui a dirigé plus tard la galerie Louise Léris, mais qui était un fonctionnaire de ce qu'on n'appelait pas encore la culture. À ce moment-là, il m'a dit, si vous avez aimé ce livre-là, je vous prête le livre sur André Breton de Gracq. Vous allez voir,
oui, beaucoup,
parce qu'évidemment, nous, on aimait les surréalistes à ce moment. On aimait les dadaïstes, on aimait tout ce genre. Moi, j'ai passé des soirées avec les lettristes. J'allais écouter bouche bée les lettristes sur un petit théâtre. Ils louent un petit théâtre. Donc tout ça, c'était... Mais quand j'ai lu le livre sur André Breton, je suis devenu fou de la lecture de Gracq, qui vient de mourir, là. Et fou au point de vouloir absolument le rencontrer.
Vous l'avez rencontré,
ce qui n'était pas facile.
Oui.
Pas facile. J'ai pris un intermédiaire, parce que le premier intermédiaire, qui était un grand ami, qui avait été un très jeune surréaliste, quand le surréalisme était déjà assez... perdait un peu de sa vivacité, c'était le photographe Gilles Herman, et il me répondait, on ne va pas voir Julien Gracq. Il faut le mériter. Alors moi, c'est des trucs qui me touchent quand même, qui me disent, mais alors, moi j'y crois, on me dit ça, j'y crois. Je me dis, mais alors, je ne suis pas digne d'aller voir cet homme-là. Bon, ben, on va voir, on va attendre, on va retrouver. Il m'a bien fait comprendre que j'étais pas digne, comme vous savez, dans certains milieux qui étaient fermés, où il fallait être novice.
Passer par toutes les étapes.
Alors moi, je le comprenais, mais ce n'était pas ma nature. Il fallait que je trouve un raccourci, il fallait que je brutalise un peu ça. Mais bon, alors j'ai trouvé un frère de ma femme qui était tout jeune cinéaste, qui n'était pas inhibé comme moi par mon copain, et qui avait porté à Gracq un script sur le château d'Argol. Et lui, il était tombé sous le charme de cet homme-là. Et ben, il avait 20 ans que moins que moi, ce garçon-là, ou 25 ans. Il est cinéaste, il fait des petits films extrêmement difficiles à appréhender au Portugal, avec sa femme, qui fait des films également. Pierre-Marie Goulet, il s'appelle. Et il a eu beaucoup de prix. Mais vous savez, les prix de cinéma qu'on distribue dans ces clubs fermés, où c'est surtout des courts-métrages, etc., ça ne rentre pas dans le monde du cinéma. Et alors, il m'a présenté à Gracq, et depuis, on a échangé. Moi, je ne le dérangeais pas, j'allais le voir une fois tous les deux ou trois ans, là-bas, dans sa ville. Et puis, je le tenais au courant, et il répondait toujours de sa petite écriture. D'ailleurs, il m'avait autorisé pour le livre Colère, à prendre... je lui avais demandé une préface. Il m'a dit qu'il ne faisait pas de préface, ce qui était vrai. Je crois que dans toute sa vie, il en a fait deux. pour un jeune écrivain qui est mort très jeune, qui l'intéressait. Et puis il en a fait une récemment, plus récemment, pour un livre de photographie, je crois qu'il a fait une... Donc il m'a donné l'autorisation d'utiliser un texte non publié encore sur la ville de Rome. Voilà, ça m'a servi de préface. C'était quand même prestigieux. Et je n'ai pas trouvé d'éditeur pour autant. Et il a fallu que j'édite le livre tout seul. J'ai allé voir un grand éditeur. Et quand je lui ai dit, j'ai une préface de Gracq, il a dit, ah, voyez. Et puis, ça ne l'a pas intéressé. Alors, j'ai dit, bon, moi.
Alors...
Donc on en était là, de toutes les histoires d'artistes, ça a été passionnant, les échanges, et ça a été permanent.
Bon. Le théâtre aussi, on n'en a pas parlé, mais...
Le théâtre, ça m'a passionné. On en reparlait hier toujours avec ses deux amis, on se rappelait quand on allait voir la première... Ils ne savaient même pas... parce qu'ils étaient moins âgés que moi, beaucoup moins, ils ne savaient pas que la première pièce de Ionesco, Les Chaises, avait été mise en scène par Sylvain Dôme.
Alors, avec qui que vous avez,
avec qui vous avez travaillé On a fait des pièces,
Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez, vous, là? Quel était l'apport de l'architecte
C'était la scénographie.
C'est-à-dire
que ce que je rencontrais, c'était des metteurs en scène.
Oui.
Je ne connaissais pas les acteurs.
Oui.
Je les ai connus au fur et à mesure. Mais j'ai suffisamment connu l'univers théâtral pour comprendre que ce n'était pas mon lot, que je ne m'y sentirais jamais à l'aise. Que c'était un monde le plus codé que j'ai rencontré.
Ah oui.
Que les artistes étaient d'une liberté
folle
de
par
parole
rapport
et d'expression dans leur art, 100 fois plus libre plus que les... Alors le théâtre, j'ai trouvé que c'était fermé. Le monde, ce qu'on appelle leur environnement propre. D'abord, vous ne pouvez pas y entrer. Et deuxièmement, si vous y entrez, vous n'y restez pas, parce qu'il faut abdiquer trop. Enfin, je n'ai pas connu les artistes de cinéma, ou très peu, mais c'est un monde qui est fermé. D'ailleurs, un jour, je l'ai écrit j'ai fait le théâtre Sylvia Monfort.
Oui.
Je l'ai connu pendant des années, Sylvia Monfort, quand elle cherchait un emplacement pour un théâtre qu'elle ne trouvait jamais. On reparlait avec Jean Nouvel hier. Il disait lui aussi que c'était très difficile d'entrer. Et moi, au début, je m'y suis intéressé. Après, j'y suis rentré en rapport avec des types comme Marco, là, très longtemps, assez longtemps. Puis après, je suis revenu avec Agam et le théâtre à quatre scènes, et à scènes multiples, avec mon frère qui avait un festival d'art dramatique à Dijon, les Nuits de Bourgogne, etc. Donc, nous avait permis, avec Jean-Marie Serrault, de faire cette pièce avec quatre actions différentes. Vous savez, théâtre multiple à contrepoint.
Il y a des noms délicieux. Hein, théâtre mobile et sans acteurs, je me demandais ce que c'était.
Oui. Et puis après, avec Polieri aussi.
Oui. Mais Polieri, c'est avec Polieri ce que
avec
je viens d'évoquer.
Mais on l'a fait à la Foire de Paris, dans le pavillon des USA. Les gens sont venus. C'était très théorique. C'était profondément ennuyeux.
C'était de l'avant-garde.
C'était de l'avant-garde.
Ça s'appelait Festival d'art d'avant-garde de Paris. Alors, qu'est-ce que c'était, justement?
Le théâtre n'a jamais bien réussi à capter l'avant-garde. Si on voit le nombre de théâtres nouveaux qu'on a dessinés depuis les années 30, avec le théâtre que Gropius avait fait dans les années 20, 25, etc., etc. On voit que on tourne toujours autour du même problème, spectateur et acteur, comment on les mélange, comment on les connexe, sous quelle forme. Mais en fait, c'est toujours à peu près pareil. J'étais avec un gars du... un vieux compagnon du TNP, là, du Théâtre de Villars, et chez Nouvelle, là, l'autre soir. Et il me disait la même chose, il me disait, mais quand je vois que c'est un théâtre nouveau, on a fait ça. Et ça n'a... ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a jamais pris. D'ailleurs, Sylvia Montfort, elle ne voulait pas un théâtre nouveau. Elle voulait un théâtre classique, mais elle voulait simplement le seul progrès que les hommes de théâtre aient accepté et réclamé, c'est que la scène et la salle soient à équivalent de dimension. Et que ce soit presque un volume comme ça qui continue. Et puis dans un volume, on fait l'action. Dans l'autre volume, on écoute et on... Et puis, il y a des parois qui font ce qui appartiennent au metteur en scène de décider sa profondeur de champ, les transparences, les machins, etc. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle toujours le théâtre d'avant-garde, je ne crois pas que ça ait jamais énormément convaincu. Celui de Polieri, c'était d'avoir, et celui de mon frère Michel avec Agam, c'était d'avoir les spectateurs au milieu et une couronne qui entourait d'actions théâtrales qui entouraient les gens. Bon, dans celui de Michel, notamment, les sièges étaient pivotants.
C'est ça, le théâtre tournant.
Il n'y avait pas de rang, et c'était le théâtre tournant. Oui, voilà. Oui. Et en réalité, chez Agam, c'était les spectateurs, chez Polieri, c'était les spectateurs le plateau de spectateurs qui tournait. Tandis que nous, chez Michel, on a mis sur des sièges tournants, on a mis 4 scènes différentes, comme ça, en carré, et on s'est arrangé pour que les gens... Alors, c'était intéressant dans la mesure où, au fond, c'était assez traditionnel comme machin, puisque si vous vouliez regarder ça comme un théâtre normal, vous ne bougiez pas de votre siège, vous ne pivotiez pas, vous regardiez la scène et vous écoutiez l'acteur qui était en face de vous dans la scène. Ce qui ne vous empêchait pas d'être détourné par les voix qui pouvaient devenir plus fortes derrière vous. Et alors vous... là, où vous étiez monocylindrique, vous étiez là, où vous cédiez la parole. Donc vous abandonniez une partie de l'action pour vous trouver dans un autre temps de l'action. C'était quand même très intéressant. Moi, j'ai assisté à plusieurs machines. Michel a fait ça avec Piscator, qui était déjà très âgé, en Allemagne. Et puis, ça s'est arrêté là, parce que moi, je crois que le théâtre n'est pas très fait pour ces... n'est pas prêt encore pour ce machin. J'ai vu pourtant des spectateurs de Raymond Rouleau, des spectacles où Raymond Rouleau avait tout mis derrière des voiles. Et puis on allumait pour que le spectateur voit certaines... J'ai vu des choses intéressantes. Je ne dis pas que la scénographie n'ait pas évolué d'une façon extraordinaire. Mais le problème du théâtre d'avant-garde, je crois que, pour le moment en tout cas, on n'en parle plus. On n'a plus entendu parler.
Non,
les scénographes se sont emparés du truc, donc ils font de la scénographie... magnifique, il y a des choses magnifiques.
Alors, dans toutes ces années 50, et de toute façon, vous faites de l'architecture, vous avez monté votre agence dès 1953, et vous travaillez sur la ville, vous travaillez avec Nicolas Schoeffer, on n'en a pas parlé, je crois.
Première utopie.
Et ça, c'est... disons que c'est les... La ville, ça a toujours été un objet de vos réflexions, tout de suite, très vite. À ce moment-là, vous travaillez sur la ville spatio-dynamique, déjà. Oui. Donc, c'est assez intéressant de voir que ça vous a toujours habité. C'est-à-dire que vous êtes toujours sur cette réflexion de la ville, quoi. Comment faire du bâti, comment on vit là-dedans, comment on passe d'un espace à l'autre.
Le premier travail qu'on peut appeler utopique, en gros, puisqu'à ce moment-là, on les appelait comme ça. Premier travail utopique, c'était avec Yolaine Mirabeau. Comment faire une ville, on dirait maintenant satellite de Paris, avec peu d'emprise au sol et beaucoup de logements. Et ces logements ayant la possibilité de participer de l'ensemble de la forêt de Fontainebleau, par exemple, sans encombrer le sol. Donc, c'était les villes fleurs, je ne sais pas comment on appelait ça. Ça, c'était en 60. Et puis, en 59, etc., j'avais participé tout de suite avec Nicolas Schoeffer, avec sa ville cybernétique. Ça veut dire, c'est l'entrée dans l'utopie qu'au fond, je n'ai jamais, et on me l'a assez reproché, participé au discours sur la ville tel que le pratiquaient mes confrères. Quand ils ont voulu revenir à la ville comme décor urbain, à l'urbanité.
Ça ne m'intéresse pas.
C'est de la cuisine, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, ça a été échec sur échec. Ce qui m'intéresse, c'est que tout d'un coup, une population changera, basculera dans une autre façon de faire les villes. D'ailleurs, je suis en train d'en dessiner, d'en prévoir une. Je ne suis pas encore tout à fait prêt, mais enfin, j'ai déjà une centaine de dessins là-dessus et un petit texte. Mais je ne veux pas le donner dans des revues ou dans des conférences. Je cherche un éditeur qui soit capable d'engager une édition avec de très belles reproductions de dessins au crayon.
Oui, vous avez des dessins extraordinaires.
Parce que je ne veux pas qu'on gâche. Moi, je vois trop les éditions que j'appelle des éditions relâchées, où on a du mauvais cliché, du mauvais ci, du mauvais ça, du mauvais papier, etc. Non, maintenant, ces dessins-là, si j'arrive à les publier un jour, ce sera avec une excellence de la reprographie, je ne sais pas comment on appelle ça. J'aurai des exigences, parce que l'édition d'architecture, vous m'avez monté les livres.
C'est du bas de gamme. Hein. C'est peut-être aussi le moyen de les diffuser. Enfin bon, ça c'est un autre débat.
Oui, moi je le connais. Sur l'édition et l'architecture, je connais. Je sais qu'ils ont des problèmes parce qu'il n'y a pas de lecteurs. Les architectes français ne lisent pas.
Oui.
Quand vous faites un livre, si vous en vendez 1000, c'est un succès. Ça couvre les frais.
Pourtant, l'architecture, c'est un sujet qui intéresse tout le monde.
Alors, il y a des trucs, quand c'est bien relayé par des médias, comme à un moment, Le Monde faisait, avec Tadao Ando, par exemple. Oui. Tadao avait lancé un petit livre, édité par Le Monde éditeur, d'ailleurs, très bien. C'était repris par une page du Monde, une page ou une demi-page, pas moins. Et dans le mois, on en vendait 2000 ou 3000. Hein.
Ce qui est un succès de librairie, ce compte
succès
à 2000.
Succès de librairie. Voilà. Là, à ce moment-là, ce relais qui n'était pas machiavélique, qui était naturel, c'est parce que Chalin ou un autre aimait ce truc-là, avait dû encore un pouvoir suffisant dans
poser
le monde pour imposer une page d'architecture alors que tout le monde s'en foutait. Eh bien, pas du tout. Il y avait des lecteurs qui embrayaient là-dessus. Et ça pouvait se faire. Mais c'est perdu,
ça. A disparu.
Ça a disparu. Même, je viens de lire tous les articles sur Nouvelle, qui sont bien faits, qui sont intéressants, etc. Mais ça,
Nouvelle qui vient de recevoir donc, le Pritzker, il y a 2-3 jours.
Pritzker. Bon, c'est intéressant, c'est bien. Ça informe, mais ça ne vous donne pas l'envie tout d'un coup de vous jeter par la fenêtre
pour aller acheter un livre
d'architecture ou voir une architecture ou visiter une architecture.
Oui. On va reprendre dans quelques instants cette interview, Claude Parent. On va marquer une petite pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Claude Parent, on reprend notre entretien. On évoquait tout à l'heure l'architecture utopique, dont vous êtes quand même une grande figure, un grand représentant. Je crois qu'il faut qu'on évoque aussi, qu'on parle de votre rencontre avec Paul Virilio en 1963. Et quelles étaient à tous les deux vos préoccupations communes ?
Ça a été d'abord, je dois dire, une très très grande rencontre. ça pour faire diverger et converger un peu autrement toute l'énergie que j'avais accumulée à cet âge-là, à cette époque-là, des années 64-65, ça a été vraiment une rencontre tout à fait déterminante. Tout à fait différente de Klein, mais en fait, je pense que parmi les gens que j'ai rencontrés, Klein et Virilio, dans le, je parle du milieu strictement architectural, enfin, sont deux points forts de mon évolution. Voilà. Et nous avons été rapprochés par un ami commun, peintre, qui s'appelle Michel Carade, qui était très connu à la, comme professeur de dessin à l'école alsacienne, puis à l'école des beaux-arts chez les architectes, pour donner un enseignement d'une façon tout à fait originale aux enfants, notamment aux jeunes élèves. Et il connaissait Virilio, il a voulu, c'est lui qui a, voulu cette rencontre. Donc, ça s'est fait, pas facilement, parce que chacun avait sa sauvagerie, mais ça s'est fait et ça a été une explosion de liberté pour moi et une concentration sur des choses qui, chez moi, avaient tendance à être quelquefois un peu éparpillées. Comme je suis un homme qui aime bien rencontrer les autres, maintenant, malgré ma fatigue, je continue, mais il arrivera un moment où je devrais freiner un peu, d'après mes médecins. La parole des autres est extrêmement importante, toujours extrêmement importante pour moi, leur pensée. Et là, c'est arrivé un moment où moi, je ne me sentais pas... J'étais plus dans un univers favorable parce que on ne parlait que de la forme à ce moment-là. Donc, on m'avait dit, comme on me décrivait comme un roi de la forme, un gars qui ne pensait qu'à l'esthétique, et etc. Et quand on est comme ça, on devient très vite formaliste. Heureusement, je n'ai pas beaucoup construit. Alors, je ne me suis pas beaucoup recopié. Mais je me sentais bien un peu mal à l'aise. Autant ces idées généreuses du groupe Espace étaient intéressantes au début, autant après, ça devenait cadenassé une fois de plus, comme les groupes fermés avec des petites jalousies, etc. Autant, à ce moment-là, j'avais besoin de reconsidérer les choses et surtout de me recentrer. De bien, il me fallait de nouveau un axe, une direction. Et c'est avec Virilio que je l'ai trouvé. Ça, alors, c'est vrai.
Alors lui, il apportait aussi une réflexion sur les bunkers. Bon, c'est parti de là, ouais, sur ces bunkers au fil du temps qui se renversaient sur les plages, parce que le sol était mouvant, justement. Et c'est là que vos deux univers se sont rencontrés. À partir de là, vous vous êtes tous les deux retrouvés sur cette idée de la fonction oblique. Alors l'expression est de lui, mais on a vu tout à l'heure au début de l'entretien combien l'oblique était importante pour vous. Comment ça s'est mis en place, et ce concept-là, ce renversement des
Je crois que c'est en faisant l'étude de Sainte-Bernadette de Nevers.
Alors, on va parler d'elle, voilà, parce que je crois que c'est le meilleur.
Je crois que c'est comme ça, parce que
le
discours théorique, c'était très imbriqué. Ouais. Mais je crois que le discours théorique qu'on a développé et dont on voit les différentes phases dans la petite revue Architecture Principe que nous avons co-édité et que nous avons payé nous-mêmes.
À l'époque.
Et distribué.
9 numéros.
9 numéros qui maintenant sont difficiles à trouver.
Oh, ils doivent être dans les archives et les bibliothèques.
Et donc, cette théorie qui s'est bien et qui a correspondu à des voyages dans les pays étrangers, avec des communications, une série de conférences, etc., où nous rencontrions un manque de crédibilité totale et des injures parfois, etc. Mais c'est venu quand même par la conjonction des deux. Un jour, Virilio apprend que une consultation se faisait, consultation d'architectes, sur deux églises dans la ville de Nevers. Voilà. Et comme il avait des relations dans ce coin-là, notamment le peintre Odette Ducart, qui peignait beaucoup pour les églises, des vitraux, etc., qui était la femme d'un éditeur qui s'appelait Morel, à ce moment-là, qui avait fait des petits livres très, très marrants, des célébrations, il appelait ces petits livres. Donc, elle a dit à l'épiscopat du coin, là, au chanoine, vous devriez consulter Claude Parent et Paul Virilio. Voilà.
C'est venu comme ça.
Alors que nous n'étions qu'au stade des réflexions, des échanges avec Virilio, et nous n'avions pas envisagé encore de construire quoi que ce soit. Mais enfin, je l'avais amené. Moi, il m'avait ouvert une certaine aventure dans le discours, et de mon côté, je lui ai ouvert le monde de l'architecture, qui lui était totalement fermé. Puisqu'il était maître Verrier,
oui,
quand je l'ai connu,
à cette époque-là, oui,
il faisait les vitraux. Donc, cette introduction de Virilio dans le monde architecturel, c'est pas fait sans mal, parce qu'il n'aime pas les étrangers. Les étrangers, dès que vous n'êtes pas architecte, vous êtes étranger, vous n'avez pas le droit de parler d'architecture. Alors moi, je l'imposais, je disais, je viens avec Virilio, et Virilio a pu s'exprimer devant des aréopages qu'il n'aurait pas rencontrés si vite. Donc, il y a eu pénétration, moi, dans un univers inconnu à travers les bunkers, et lui, pénétration dans l'architecture. Qu'en pensait, il le faisait, mais il était sur les marges. On rentre là aussi, c'est un milieu, c'est pas très facile d'accéder. Donc, on a fait cette consultation, qui était une sorte de concours qui n'en était pas un. Je ne me souviens pas bien comment ça s'est passé. Et puis, petit à petit, on est resté deux groupes, Villeurval et moi. Et petit à petit, on nous a dit, bon, ben, vous ferez une église chacun. Donc, Villeurval a fait la sienne, dans Nevers. C'est dans les faubourgs de Nevers. Hein. Et puis, nous, avec Virilio, on a fait la nôtre.
Celle non du quartier mal. Du Banlay.
Dans le quartier du Banlay, qui est un quartier qui était ce qu'on appelle maintenant un quartier difficile, qui était un quartier simplement un petit peu pauvre par rapport au reste de la ville.
Quand la construction a démarré, il n'y avait pas ces immeubles autour.
Non.
Parce que là, je vois, il y a une photo. Parce que moi, j'y suis allée, j'étais la voir, la visiter il y a un an. Et effectivement, elle est entourée de petits immeubles.
C'est des pavillons loi-loucheur. Vous savez, la loi d'après 14-18 pour faciliter l'accès à une maison, dans les villes bombardées, c'était des pavillons comme ça, qui étaient très vétustes.
Quelques-uns autour là du chantier, sur cette photographie de 65, je suppose. Et aujourd'hui, effectivement, l'église est pratiquement entourée de petites barres d'immeubles. Pas très hautes, hein. c'est quand même pas les grands ensembles,
non, quand même,
du tout. Ils ont l'air tout à fait sympathiques comme ça, vu de l'extérieur. Et ils donnent sur cette église, l'église Sainte-Bernadette du Banlay.
C'est ça qui était drôle, parce que nous avions plusieurs motivations pour la faire, comme nous l'avons dessinée. Bon, d'abord, le vocabulaire des bunkers, on voulait l'employer parce qu'on voulait révéler la richesse de cette machine. Deuxièmement, Virilio était très sensible à la grotte, il est très croyant, et chaque fois qu'il parle, il parle à la grotte de Sainte-Bernadette, etc.
Qui était venu se réfugier, en quelque sorte.
En plus, moi, j'étais à ce moment-là anti-environnement, dans la mesure où prendre des vues sur un environnement malsain me semblait épouvantable. Et là, c'était malsain. C'était moche. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé après, les pavillons, évidemment, ils n'enfermaient pas. Tandis que maintenant, vous avez raison, c'est quand même bien enfermé, bien encadré. D'ailleurs, il y a un promoteur qui m'a accusé un jour de lui être néfaste parce qu'il ne pouvait pas vendre ces appartements parce qu'ils avaient la vue sur l'église et que les gens s'offusquaient.
Il a un nouvel argument,
cette église.
Puisque maintenant elle est classée monument historique et que si de l'aspect effectivement extérieur on a l'impression de quelque chose de massif, d'un bunker, il suffit d'y rentrer pour que tout s'efface et on a justement cette sensation de douceur, de protection dans ce grand espace en hauteur parce qu'on pousse les portes de l'église et qu'on rentre. Il y a un grand escalier central qui conduit dans la grande salle, c'est-à-dire qu'on monte pour rentrer dans cette église. Et sur le côté, il y a ces escaliers latéraux. Donc, il y a un sentiment de circulation, bien sûr. Et puis, de quelque chose de très protecteur. Parce que cette masse de béton de l'extérieur, quand on est dedans, on est quand même comme dans un œuf. On se sent très protégé. Il y a beaucoup de lumière, alors que de l'extérieur, on ne voit pas ces ouvertures, puisque la lumière vient de là-haut.
Mais bien analysé.
Ah, ça a été un vrai plaisir.
Ça, hein.
Non, mais je suis allée. Un jour, il y avait un office, donc c'était encore plus émouvant.
Ah, c'est mieux avec l'office.
Pâques, pas cette année, l'année d'avant.
Voilà. Ah, ouais. C'est mieux.
Alors, pour vous dire, les poussettes sont restées en bas.
C'est mieux avec l'office.
C'était effectivement, à l'époque, ça a fait assez scandale, c'est cette forme. Alors, qu'est-ce que vous aviez voulu faire avec ces deux formes?
Moi, c'était la protection. Mmh. Moi, j'ai dit, il faut protéger les gens par rapport à ce qui va se passer autour, par rapport à ce qu'il y a déjà, qui étaient des déserts en dégradation. Et on va bâtir, il faut protéger. Il faut protéger l'acte de la messe et de la réflexion, quelle qu'elle soit, par une carapace. Donc le bunker ne me déplaisait pas dans son office de protection, puisque ça n'a jamais été offensif, un bunker. Et c'était défensif. Et puis cette notion de l'enceinte, de la carapace, et pour une fois, je voulais qu'on aille jusqu'au bout. Et c'est pour ça que quand vous me faites plaisir, quand vous parlez de la façon dont la lumière arrive à éclairer
très
sans être visible et de donner de la douceur.
Ah oui, parce qu'en plus, à l'intérieur, si mes souvenirs sont bons, c'est arrondi. Il n'y a pas d'angle dans cette grande salle. Je ne peux pas l'appeler la nef, parce que ce n'est pas un plan habituel. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Et bon, moi, j'étais très curieuse d'y aller pour voir ce que c'était que ce sol en oblique, parce que c'est assez fascinant. Ce n'est pas du tout agressif. Justement, vous avez dans cette espace commun, du haut, quoi, réservé donc à l'office. Le sol est légèrement pentu, mais très légèrement, et en plusieurs endroits. Donc, les espaces sont délimités et, en fait, se rejoignent.
Il y a une continuité.
On retrouve les sillons et une belle circulation au sol. Et c'est vrai qu'on n'est pas déstabilisé. Et pourtant, on est dans un monde qui est le vôtre, hein, qui n'est pas très commun et qui parle quand même. Hein. Enfin bon, je pense que c'est pas à l'époque les gens qui l'ont critiqué. Je sais pas s'ils sont rentrés dedans, mais quand même ils n'ont pas dû être complètement malades en y rentrant. Je ne crois pas. En tout cas, voilà, c'était très très intéressant de voir cette réalisation.
Pour moi, on a mis tout ce qu'on avait à dire là-dedans.
Oui.
Et on a bien fait parce qu'on n'a pas eu d'autre occasion.
Oui.
C'est quand même terrible de se dire qu'elle a été terminée en 1966. Nous sommes en 2006. La propagande que nous avons faite sur la continuité, résumée dans le petit livre dont on parlait, sur la continuité obligatoire, sur le fait qu'il fallait s'élever comme ça par un ensemble de pentes, etc. On a prêché, donc, avec un exemple existant, on a prêché pendant combien d'années? 60, 40 ans.
Oui.
40 ans. Et j'ai fait des concours où j'ai mis là-dedans tout ce qu'on avait appris en faisant cette église qu'on a visitée beaucoup de fois. Quand on y revient avec Virilio, on voit déjà la troisième génération. Et ils nous disent comme ils sont attachés à cette église. Il y en a même qui ont dit, ceux qui veulent faire de la prétention, ils vont à la cathédrale, qui est très belle d'ailleurs, je ne dis pas. Mais pour se marier, quand on est dans ce quartier, eux, ils disent, c'est notre église, on y va. Elle a été adoptée déjà par trois générations. Et nous, pendant ce temps, on n'a pas fait. Il y a quand même, je ne me plains pas. Je suis très heureux d'avoir fait déjà tout ce que j'ai pu faire. Mais je trouve quand même, par moments, criminel d'avoir serré une idée d'origine qui était quand même généreuse, qui pouvait être prise par tout le monde. Nous, on disait, la porte ne nous appartient pas, prenez-la, elle est à vous, la nature l'a inventée avant nous. Nous, c'est simplement qu'on veut s'en servir. Les skieurs s'en servent, ils nous comprenaient. Les gens qui faisaient de la voile nous comprenaient à cause de la pente, etc. Mais le monde architectural est resté complètement fermé. Et nous n'avons jamais pu renouveler. On a fait des concours, on a multiplié les expositions. J'ai exposé dans toutes les maisons de la culture. Et tout ça, ça a attiré un mouvement de curiosité, mais impossible d'aller plus loin. Et ça, quand même, c'est un peu dommage. Alors, il y en a un qui va plus loin maintenant, c'est Nouvelle. S'il fait ça, il l'a dit lui-même, pour sa philharmonie, sa salle, il m'a dit, téléphoné, il m'a dit, vous allez voir ce que j'ai fait, c'est un hommage que je vous fais, puisqu'il a été 4-5 ans chez moi, tout au début, quand il était tout jeune, à 20 ans, c'est un hommage que je vous fais, vous allez voir, à Virilio et vous, vous allez voir. Et quand on regarde certaines vues de la philharmonie, c'est extraordinaire. Il y a les petits bonshommes dessus, tous ces petits bonshommes
que, vous avez
que je mets partout, ils sont sur sa maquette. Parce que l'idée de la rampe, c'est pour ça qu'il y a des petits bonshommes, c'est dire le parcours, comme j'ai dit l'autre fois, mais pour dire aussi que les plans qui sont chargés d'enclore doivent être praticables. On ne peut pas gâcher. Quand on fait un cube, on gâche les quatre murs, et on gâche la toiture pour la praticabilité. Oui. Bon, nous, notre rêve, c'était que tout ce qui cherche à enclore facilite la clôture, soit praticable, pour que justement, cette clôture ne joue pas comme une clôture, mais joue comme une liaison. Si vous basculez la façade d'un immeuble, et si vous acceptez le parcours sur la façade basculée,
ça fait de l'espace.
Ça fait de l'espace gagné.
De la surface.
Ça fait de la surface gagnée. Praticable, donc, qui peut servir aux hommes dans leur rapport. On cherche des lieux de rassemblement partout, mais toutes les terrasses, elles sont cloisonnées comme le reste. Bon, alors la bataille, au fond, elle est là. C'est qu'il faut trouver une société qui ne mette pas en doute le plaisir d'être ensemble, sans transformer ça, comme dans un match de football, en un truc de pugilat. Voilà, c'est tout. Alors moi, j'attends ma société qu'on s'entende et compatissante. Mais je crois, les jeunes, ils y croient de plus en plus. C'est marquant, le fait de Nouvelle qui a fait ça, parce que son immeuble, tel qu'il l'a fait, j'espère qu'il le réalisera, relie les espaces de la Villette. Actuellement séparés. Il y a une fille qui a fait une thèse sur un truc extraordinaire, elle a eu la mention très bien d'ailleurs, elle voulait le triangle des trois musées, elle appelle ça, elle prend le musée de Nouvelle, le dernier musée de Nouvelle, le musée du Trocadéro et le musée d'art moderne.
Oui.
Et elle fait une liaison de plans obliques, inclinés, enchevêtrés, qui relie en plateforme utilisable, ces trois points.
Oh, vous avez vraiment des
elle
successeurs.
S'appelle Albrecht. Ouais. Albrecht, mademoiselle Albrecht. Et c'est extraordinaire. Elle franchit la Seine, elle franchit les deux trucs des berges qui sont des trucs infranchissables, qui coupent la ville, et elle fait une communauté muséale qui fait que vous allez tout naturellement d'un musée à l'autre. Parce que vous ne pouvez pas le faire, puisque vous avez la Seine, il faut aller prendre les ponts, les chats et trucs. Bon, ce sont des idées donc, que les jeunes ont maintenant dans la tête. Donc je pense qu'on a suffisamment attendu, Virilio et moi, maintenant on peut quitter la Seine. Il y a des jeunes qui ont intégré
vos idées.
Oui, mais ce qu'on peut en faire.
Ouais. Et ils iront certainement créé, en fait.
Plus loin que nous. Voilà. Et ça, j'y crois, et c'est pour ça que je ne serai jamais traumatisé parce que je n'ai pas fait ci ou je n'ai pas fait ça. Ça ne se pose pas à moi. Je crois que ça va se faire. Je crois qu'ils sont là et qu'il y aura bien des surprises. Quand ils auront fini de faire leur ville imbécile en entassant des cubes les uns sur les autres. Voilà. Et quand ils auront deux ou trois tours qui seront tombés par terre, comme l'arrogance de ces tours. L'arrogance.
Quelque chose qui vous tient à cœur aussi, ça, ce paysage en hauteur. On en reparlera peut-être, vous reviendrez nous en parler. Donc on voit qu'effectivement, ce que vous avez préconisé, déplacer l'immobile, habiter les réseaux, pratiquer l'inversion, visiblement, les nouvelles générations semblent s'en emparer. Alors, tant mieux. Claude Parent, quel est, avant de terminer l'interview, est-ce que vous pourriez nous décrire votre épée d'académicien ? Parce que c'est pour faire le lien avec le début. J'espère que vous reviendrez nous parler d'autres sujets, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps, malheureusement, d'aller plus loin. Et j'aurais voulu qu'on évoque aussi le bâtiment de la cité universitaire, la maison d'Iran, et puis parler de Paris. Pour revenir sous la coupole et à ce palais, puisque vous en êtes un membre, vous êtes membre de l'Institut. Donc, cette épée d'académicien, elle est très particulière. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Ça s'est fait d'une façon...
Vous l'avez dessinée.
J'ai même pas eu à la dessiner.
Oui.
Ça s'est fait d'une façon très simple, parce que Taillebert, qui était mon mentor là-dedans, il avait voulu que je me présente, il a tout organisé. Bon, donc, j'étais... D'ailleurs, je me trouve très bien à l'Académie, j'en profite, parce que les gens me disent « Comment tu te plairas pas de cet endroit-là, que tu as combattu si longtemps ?» Je m'y trouve très bien. Je m'y trouve très bien, surtout quand on débat de choses... des choses un peu savantes sur les arts et qu'on essaye d'en détecter les mystères, les cohérences et les interdits. Ça m'intéresse. J'essaye toujours de les ramener à des sujets qui peuvent nous lier par le débat. Voilà. Moi, je crois que cette société, l'Académie, qui est une grande chose, qui a des moyens, qui a des gens... qui ont été élus pour leurs compétences et leurs talents, et qu'ils sont assez âgés pour avoir le respect des idées des autres, je pense qu'on peut faire beaucoup en acceptant de débattre et en acceptant de porter à la connaissance des gens extérieurs à l'Académie ces débats. Ben, ça, je crois qu'il faut redevenir un lieu de débat très, très consensuel et très agressif même. Alors, l'épée, ben oui, l'épée, c'est un signe. C'est un signe de décorum et d'agressivité. Il me dit, voilà, celui qui a fait mon épée s'appelle un tel, tu vas voir, il sait ce qu'il faut faire, il vient te voir. Parce que moi, je m'attendais à demander à un de mes amis sculpteurs. Et puis, le type dit, je voudrais savoir qui vous êtes, ce que vous êtes, etc. Et puis, il voit mon papier à l'aide du moment, que j'ai changé d'ailleurs, où il y a inscrit le sigle téméraire et organique et qui résume à lui seul toute la fonction oblique, cette espèce de flèche à empennage qui montre les deux collines et le point stabilisant du plan horizontal qui les réunit. Bon. Alors, il me dit, mais voilà, moi, je vais travailler là-dessus. Je vais partir de votre papier à lettre. La marque était grande comme ça, elle faisait au moins 15 cm. Donc, et il m'a apporté une première maquette où il y avait le sigle. Alors, on a essayé de le compliquer. On a essayé de dire, bon, il faut faire un truc entre la lame et le machin, et puis on s'est vu que c'était pas très joli du tout, donc on a gardé le sigle à l'état pur, à l'état brut, et quand je brandis mon épée, c'est pas très commode pour la poignée, mais quand je la montre comme ça, comme j'ai fait à l'Assemblée quand on me l'a remise, on voit s'inscrire la quintessence formelle de la fonction oblique. Donc je suis content parce que sans le faire exprès, au lieu de mettre une espèce de parabole, etc., j'ai pas mis d'inscription, j'ai mis le sigle. Voilà.
C'est ce qui vous résume, si je peux dire, ce qui vous signe le mieux sous la coupole. Claude Parent, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au micro de Canal Académie, nous parler et nous dévoiler un petit morceau de votre œuvre. J'espère que vous reviendrez très prochainement.
Moi, je vous remercie de la description de l'église. On ne pouvait pas faire mieux. Ben si je l'avais dite, moi, ça, c'est pas ça. Mais vous l'avez décrite. Alors, vous n'êtes pas architecte.
Non, pas du tout.
Vous l'avez
non,
donc décrite comme quelqu'un qui entre et qui déguste.
Ben, j'étais très intriguée par... vous savez, la première fois que j'ai entendu parler de vous, j'étais ici et je ne savais pas qui vous étiez. Et j'en ai parlé à l'extérieur. On m'a dit, mais Claude Parent, c'est le... l'architecte l'oblique, un architecte utopique. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais y voir. Voilà. Pour ma curiosité.
Merci.
Merci, monsieur.